Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, braquage, vengeance contre les nazis, enfermement, mais cirque aussi, c'est Cinérama. On va tout de suite développer le sommaire. Bonjour Marine.
Bonjour, alors moi je vais vous parler de deux films complètement différents. D'un côté, Les Ogres de Léa Fener, une ode à la vie très joyeuse, expansive. Et d'un autre côté, Remember de Atom et Goyan, qui parle de Shoah et d'Alzheimer. Oui, on va bien se marrer.
Et bonjour Manu, toi, bonjour. Ça va être autre chose.
Alors donc, de la suite de Cloverfield, hein, enfin la suite officieuse, hein, officielle, mais 10 Cloverfield Lane, et puis certainement, peut-être,
Les Diaboliques,
les Diaboliques de Clouzot.
Et puis moi, je vous parlerai de Triple Nine, ou on veut dire Triple Neuf en français, et puis j'ai préparé un blind test, alors un blind test spécial médecin, pour la sortie eh bien, du film Médecin de campagne. Et oui, un spécial médecin, c'est dans Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et on commence donc avec Remember de Atom et Goyan, ou Egoyan, j'ai jamais su. Hein.
On dit comment on veut, moi je dis Egoyan.
Bon, Atom et Goyan, voilà. Donc Zev Gutman, dont le nom signifie loup en hébreu, se réveille un matin dans la chambre de sa maison de retraite sans se rappeler, bah, comme tous les jours d'ailleurs, de ce qu'il y fait. En même temps, Zev a 90 ans, il est atteint de démence sénile et perd donc sérieusement la mémoire. Mais ce jour-ci, à son réveil, son vieil ami vient le trouver pour lui rappeler qu'il a fait une promesse à sa femme avant qu'elle ne meure. Il doit s'enfuir de la maison de retraite, acheter une arme, retrouver un certain Rudy, cet homme qui s'avait passé pour un juif alors qu'il était surveillant nazi dans le camp de Auschwitz. Rudy aurait institué toute la famille de Zev avant de réussir à s'enfuir en usurpant l'identité d'un détenu. La vengeance étant un plat qui se mange très très froid sur ce coup-là, Zev décide de partir accomplir son devoir 70 ans plus tard, malgré son arthrose et ses trous de mémoire à répétition. Seul souci, il n'y a pas moins de 4 Rudy Kurlander recensés et ce périple va l'emmener jusqu'au Canada, tandis qu'il est pris en chasse par son propre fils qui tente de le ramener à l'hôpital. Alors évidemment, tout cela sans la manipulation à plein nez, mais la mise en scène en nous plaçant du point de vue de Zev, donc d'un homme atteint d'Alzheimer, nous empêche d'avoir accès à d'autres informations que celles qu'il possède. À la différence que nous, d'une scène à l'autre, on s'en souvient, alors que lui, par contre, il oublie. Hein. Malheureusement, et malgré cette bonne idée de scénario, le 47e film de Atom et Goyan, et le seul qui n'est pas écrit d'ailleurs, est à l'image de son personnage un peu laborieux. On a l'impression que le réalisateur ne sait sur quel pied danser, le spectateur a bien du mal à situer le genre devant lequel il se trouve, hésitant entre drame, entre comédie et thriller. La réalisation aurait justement gagné à s'engouffrer plus frontalement dans le thriller, car le grotesque des situations ne parvient pas à être évité par un Christopher Plummer pourtant très bon dans son rôle. Entre autres, le personnage principal quand même réapprend toutes les 5 minutes que sa femme est morte. On a l'impression que c'est un running gag. Donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et puis pour ma part, je trouve que le twist final qui se veut glaçant et qui pourrait donner à réfléchir sur ce qu'est l'oubli, la vieillesse, le devoir de mémoire, finalement le twist, comme tout le reste du film, souffre tellement d'une mise en scène hésitante lorsqu'elle n'est pas totalement absente d'ailleurs, qu'il en devient ridicule. C'est une bonne réflexion, enfin du moins c'est intéressant en forme de fable sur le passé, sur la justice et même sur ce qu'est le bien et le mal finalement, qui s'attache à surprendre son spectateur mais sans avoir réussi à le captiver auparavant, et ça rend l'entreprise vraiment bancale. Moi, j'ai presque pas su quoi penser devant ce film, en fait. À part que j'étais presque gênée et que je me suis beaucoup ennuyée. Voilà.
Bon, eh bien, ça sort en tout cas le 23 mars. Remember, le nouveau film de Egoyan, ou Egoyan, comme on veut. En tout cas, il est canado...
Égyptien.
Non, arménien.
Arménien.
Non, il est...
Allociné se trompe, alors.
Ah oui,
clairement. Mais il se trompe souvent, Allociné.
Oui. Donc oui, il est d'origine arménienne. Alors à savoir comment ça se prononce, peut-être une prochaine fois. Tout de suite, on passe à un film plutôt musclé.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
On pourrait tenter un triple neuf.
Un triple neuf ? C'est quoi ?
Le code pour un flic abattu. Toute la police se précipite sur le site. On serait tranquille pour la journée.
Ce code 999, voilà un code intéressant. C'est une alerte lancée en cas d'extrême urgence lorsqu'un policier est touché lors d'une fusillade. Alors dans ces moments-là, le monde s'arrête. Toutes les voitures de police dans les environs convergent vers le point noir et ne changent pas de mission avant que l'affaire soit résolue. C'est comme si, toute proportion gardée, dès qu'un agent EDF était à terre après une électrocution, lors d'une intervention, on coupait l'électricité de la ville. Voilà. En tout cas, ce code donne prétexte à un film signé John Hillcoat, à qui l'on doit eh bien, trois films différents, quoique tous traversés par une représentation de la violence. Hein. The Proposition, La Route, en version post-apocalyptique, et puis Des Hommes sans loi. Alors ici, il est question de braqueurs. Il s'agit de quatre hommes des forces spéciales, alors d'anciens ou d'actuels policiers. On les voit réussir un très beau coup, parvenant à dépasser l'imprévu. On les croit à l'abri, mais la mafia russo-juive d'Atlanta, qui exerce du chantage, leur demande un autre braquage, mais bien plus risqué. Alors s'il n'y avait que les braqueurs, eh bien, le film serait limpide. Seulement, il y a aux côtés de ces ripoux un enquêteur fantasque interprété par Woody Harrelson et son neveu, Casey Affleck, fraîchement nommé dans un commissariat où il a pour partenaire eh bien, un des ripoux. On sent bien comment pourrait être déclenché le triple neuf qui fera diversion.
J'ai failli douter de toi. On n'en a pas terminé, Michael.
C'était pas notre accord.
J'ai dû convaincre ma sœur de t'épargner.
Il y a un autre coup. Si on refuse, elle va nous exécuter un par un.
Une équipe de quatre. C'est qui le quatrième ?
Il y en a pas un qui se dit qu'il y a peut-être une affaire bien balèze qui nous pend au nez.
Il y a forcément un autre moyen.
Ça me dérange pas de buter un flic. Je te le dégomme comme ça.
Ton boulot, c'est d'être plus monstrueux que monstre. Et de rentrer en un seul morceau.
C'est fou ce qu'on peut faire à un homme quand il n'a plus d'espoir.
Et oui, ce sont les joies de la version française. Avec son casting très bien étudié de Woody Harrelson à Casey Affleck, on en a déjà parlé, hein, en passant par Kate Winslet, qu'on vient d'entendre, en vrai peau de vache russe, ou Chiwetel, alors ça c'est pareil, je ne sais pas comment ça se prononce, Chiwetel Ejiofor, c'est celui qui interprète l'esclave dans 12 Years a Slave. Et donc, il y a aussi des acteurs transfuges de séries à succès. Eh bien, Triple 9 déroule une intrigue patiente. Alors, nous savons que les braquages ne sont pas la raison du film, hein, que l'histoire cache autre chose que des séquences virtuoses où des hommes super entraînés parviennent à déjouer des systèmes de sécurité. Triple 9 laisse surtout entrevoir un monde pourri. Un monde où le désespoir et l'honneur attisent la violence. Il est question des armes en vente libre partout, des gangs avec lesquels la police s'arrange. Et puis, ça nourrit une forme d'égoïsme. Alors, une noirceur bien palpable dans la mise en scène, avec une image granuleuse dans les teintes orange, pour ne pas dire salopée. Les décors quelconques ne nous laissent aucun échappatoire. À l'intérieur de l'appartement de Woody Harrelson, le chef, un enquêteur en tout cas, on a l'impression que c'est une chambre d'ailleurs d'hôtel. Enfin, en tout cas, c'est un capharnaüm digne du pire étudiant allergique au ménage. Et puis, il y a un personnage évidemment qui pourrait contrebalancer tout ce monde. Eh bien, c'est le flic honnête joué par Ben Affleck. Il est montré dans toute sa naïveté, ses doutes, ses failles, sa fragilité. Il est le point de bascule. Alors, on n'attendra rien d'un enfant qui traverse plusieurs séquences et qui sert de pression au chantage. Il apparaît complètement fantomatique, vaquant à ses occupations pendant qu'on dit plein d'horreurs autour de lui. Alors, pour offrir cet univers crépusculaire, la mise en scène se montre plutôt habile. John Hillcoat articule les séquences d'action, de suspense, avec celles de bavardage où s'exprime la dureté d'un monde, son analyse ou la manière de s'y faufiler. Tout le casting est plutôt épatant. Kate Winslet s'en tire très bien, même si, effectivement, Manu, tu l'as vu, le film Triple Nine, il y a deux personnages, dont celui de Kate Winslet et celui de Woody Harrelson, qui sont très poussés dans une forme de peut-être caricature.
Ben moi, ce que je pense, c'est le film est un peu outré. Enfin, la noirceur, elle est vraiment tellement excessive qu'il y a un côté, je trouve, bande dessinée pour adultes, ce que je trouve très très plaisant, mais on sent l'influence de Friedkin qui est très présente, mais je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça plus divertissant que désespéré, qu'un film noir glauque.
Non, oui, divertissant, oui, pourquoi pas. Donc, à noter la présence de deux comédiens de séries à succès. Il y a Norman Reedus de The Walking Dead qui interprète Daryl, hein, le redneck qui finit par s'assagir. Et puis Aaron Paul de Breaking Bad, le petit dealer qui confectionne la meth avec Heisenberg. Lui, il est complètement méconnaissable, hein, dans Triple 9 et il joue bien deux frères.
Hey.
petit remix de Cypress Hill qui est dans la bande son de Triple 9. Et donc j'ai fait une erreur, effectivement, c'était Casey Affleck et pas Ben Affleck qui joue dans un autre film d'ailleurs qui sort le 23 mars, alors que Triple 9 est sorti une semaine avant.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, 10 Cloverfield Lane, la suite donc de Cloverfield qui était sortie en 2008. Alors qu'elle roulait en pleine nuit, Michelle est victime d'un accident de voiture brutal, un trou noir. Elle se réveille sur un matelas posé à même le sol, dans un lieu sans fenêtre, une sorte de prison bien glauque, décor idéal pour les histoires de torture porn. Alors, elle est à la fois sous perfusion et attachée. Un homme, Howard Stambler, lui explique qu'il la garde dans cet endroit pour son bien. En effet, selon lui, un gaz toxique a été libéré dans la région, rendant l'air extérieur irrespirable. La jeune femme est donc condamnée à vivre dans un véritable bunker avec Howard et Emmett, un jeune homme qui corrobore les dires du maître des lieux. Mais de plus en plus inquiète par le comportement d'Howard, elle décide de s'échapper.
Qu'est-ce que vous allez me faire ?
Faire en sorte de vous maintenir en vie. Oh, c'était un accident. Je vous ai sauvé en vous amenant ici. Tout le monde à l'extérieur est mort.
Qu'est-ce que tu t'es fait au bras ? T'essayais de t'enfuir ?
Non, j'essayais d'entrer. C'était quoi ?
Silence.
Comment vous savez que c'est réel ?
Tu vas nous faire tous tuer ! Non ! N'ouvre pas la porte !
Ça se rapproche.
Le point de départ, hein, excitant, hein, rappelle l'esprit des meilleurs épisodes de la quatrième dimension, la série culte de Rod Serling. Et une fois n'est pas coutume, on saura gré de remercier les auteurs de la bande-annonce qui ont su en révéler le moins possible, préservant ainsi un mystère réel quant à l'identité du personnage principal et l'éventuelle menace extérieure. Alors un exploit aujourd'hui, à l'heure où tout est dévoilé en à peine 2 minutes, afin d'attirer le maximum de personnes dans les salles. Alors je vais tâcher aussi d'en déflorer le moins possible, bon, même si les indices les plus flagrants restent dans le titre, hein, surtout pour ceux qui ont vu le premier Cloverfield de 2008. Alors, Dan Trachtenberg, le réalisateur, un jeune cinéaste qui signe ici son premier long métrage, hein, parvient avec un réel talent à planter le décor en à peine 5 minutes et immerger le spectateur au cœur d'une atmosphère inquiétante et ambiguë. Alors, sans recours à des ressorts dramatiques inutiles, hein, ou une avalanche d'effets spéciaux masquant les habituelles déficiences de script, 10 Cloverfield Lane possède un scénario retors brillamment construit pendant au moins les 3/4 du film. Les personnages sont fort bien écrits, à commencer par celui interprété par un John Goodman impressionnant. Howard Stambler, hein, est-il un paranoïaque aigu, fruit d'une Amérique repliée sur elle-même, un ogre terrifiant des temps modernes ou un bon père de famille peiné de ne plus voir sa fille ? Alors tour à tour, chaque option est plausible, laissant planer sur cette excellente surprise un doute permanent sur l'issue du récit. Alors le spectateur n'a jamais 2 longueurs d'avance sur l'héroïne et le point de vue sur Stambler change constamment d'une scène à l'autre, ce qui ne fait qu'accroître le suspense. Alors Trachtenberg s'avère aussi un metteur en scène inspiré, dépassant le cadre du Yes Man parachuté par le producteur J.J. Abraham, grâce à d'habiles mouvements de caméra générant un climat anxiogène et surtout à une utilisation intelligente du décor, un bunker artisanal, véritable prison dorée pour des Hansel et Gretel des temps modernes. Alors comprenne qui verra et pourra. Alors le suspense est maintenu, hein, jusqu'à la révélation finale, qui n'en est pas vraiment une dans les dernières 20 minutes. Le cinéma de studio, à grand renfort d'effets spéciaux, reprend ses droits. Le film gagne en spectaculaire, ce qu'il perd en subtilité. Mais le cinéaste laisse volontairement des zones d'ombre, ce qui rend attachant et souvent surprenant ce bon film de genre, remarquablement interprété par 3 comédiens. Alors, outre John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, qui campait la fille de John McClane dans les derniers Die Hard. Elle est fort crédible, même si elle a tendance, en fin de parcours, à se transformer en super-héroïne, hein, nuisant quelque peu à la crédibilité du personnage. Enfin, reste un très très bon film de genre.
Oui, qui ne marche pas très bien en salle.
Je ne suis pas étonné, hein, il ne se passe pas grand-chose. Il y a peu d'action.
Ouais. Et c'est sorti le 16 mars.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on passe aux ogres de Léa Fener. Alors les ogres, c'est une fresque de 2h30, à la fois très romanesque et très naturaliste, qui raconte la vie d'une troupe de théâtre itinérant. Une troupe hétéroclite, composée d'hommes, de femmes, de tous horizons, et même d'enfants et d'animaux, qui trimballent de ville en ville leurs problèmes, leurs rêves et leurs mélancolies. À chaque étape recommence le même manège, ils montent leur chapiteau, exécutent plusieurs représentations d'une adaptation de Tchekhov, mi-happening, mi-danse, mi-théâtre contemporain. Un spectacle très représentatif finalement de leurs errements intérieurs. Le film joue d'ailleurs beaucoup sur le parallèle entre ce qui se passe sur scène et entre les scènes, sur le mode opératoire du « La vie est un grand cabaret ».
Je m'en fiche que vous soyez une femme, un être fragile, et tant de balayer ce préjugé que seuls les hommes ont à payer pour l'insulte va pour les
gars. Vous voulez vous battre ?
Sur le terrain, immédiatement.
Immédiatement. Mon mari a laissé des pistolets, je vais les apporter. Avec quelle joie je collerai une balle dans votre front de fonte, que le diable vous emporte !
Alors les ogres portent bien leur nom, hein. Ils bouffent, ils baisent, ils boivent, ils se battent, même les femmes enceintes se battent d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Ils amènent un vent de folie partout où ils passent et parfois aussi un peu trop de chaos. Léa Fener, dont c'est le deuxième film après Le Très Sombre qu'un seul tienne et les autres suivront, se tourne cette fois vers la lumière avec une belle ode à la vie et au théâtre. Si dans le film la frontière entre scène et réalité est souvent floutée, la frontière entre autobiographie et fiction l'est aussi puisque la réalisatrice est largement inspirée de ses parents qui jouent d'ailleurs dans le film. D'ailleurs, elle était même venue présenter en fait sur la scène au Festival Cinémet son film avec son bébé dans les bras. On sent vraiment qu'elle a été élevée comme ça dans ce monde un peu de théâtre et tout. Enfin bref, on sent que c'est une enfant de la balle. Naturellement, eh bien, entre les scènes de théâtre, on a des scènes de vie. Et chaque personnage cache derrière le masque de la comédie ses tourments. Alors, on a par exemple Mona, donc jouée par Adèle Haenel, qui fait du Adèle Haenel, hein, qui est enceinte de Monsieur Déloyal, interprété par Marc Barbet, qui lui est très dépressif. On a également Lola, jouée par Lola Duenas, que l'on a grand plaisir à revoir après Les Amants Passagers de Almodovar, dont le personnage a entretenu une relation avec le directeur de la troupe et qui revient pour remplacer une autre comédienne au grand dam de la femme de son ex. Et d'ailleurs, ces personnages le même nom que les comédiens, ce qui contribue à la confusion générale. On écoute un autre extrême.
C'est quoi ce chantier ? On avait dit demain matin,
oh,
rangement.
Ça va, on a le temps, non ?
Non, on n'a pas le temps. Dans 2 heures, il y a les gosses du centre aéré qui arrivent. Allez, au boulot, on s'y met. Tout le monde s'y met, d'accord ? Dans 2 heures, je veux que tu sois nickel. Hein ? Je veux qu'on ait l'air normaux, bourgeois et propre, d'accord ?
Il y a du taf.
Papa, au sujet de la DUE de Gisèle, je voulais te demander, c'est...
T'as besoin de moi, je suis dans la caravane d'Inès, la DUE, il faut que je t'en parle, vraiment.
Pas maintenant.
Maintenant, si, maintenant.
Non, pas maintenant,
mais quand...
t'es sourde ou quoi ? Ouais, cache tes seins, toi.
Oh. C'est bon comme ça ?
Et toi, au lieu de ricaner, va donc enlever tes posters de cul dans la caravane maquillage, d'accord ? Et bougez-moi ce con de la table du petit déjeuner. C'est un théâtre ici, pas un cirque.
Alors, qui dit troupe de théâtre dit nécessairement excès en tout genre, fort bien accompagné d'ailleurs par une caméra discrète mais présente, et surtout cela induit une certaine esthétisation de l'hystérie, comme si la vie passait par l'hystérie. Alors c'est finalement ce qui fait le charme du film et ce qui le rend aussi un peu agaçant. C'est très vivant mais très exagéré également. Si vous êtes de nature pondérée, hein, passez votre chemin parce que sinon vous aurez envie de tuer des saltimbanques en sortant. La gestion du rythme également devient assez vite un peu artificielle puisque pour ménager son spectateur, la réalisatrice alterne systématiquement scènes de calme plutôt préfabriquées, à savoir voitures qui roulent sur une musique mélancolique et scènes vaudevillesques. Ce petit manège revêtant un caractère assez factice lorsqu'il est renouvelé de la sorte pendant 2h30. La durée, justement, est peu commune pour un film français. Je pense qu'on n'avait pas subi ça depuis La Vie d'Adèle. Mais étrangement, eh bien, la magie opère de la même façon que pour le film de Kechiche. Et on ne ressent pas la moindre impression de lenteur, malgré les quelques critiques énoncées précédemment. Hein, c'est quand même un film très séduisant, très exalté, très réussi. Et je le conseille. Voilà.
Merci Marine. Et bien, nous passons au côté amusant de l'émission. C'est le blind test.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Alors, c'était à l'occasion de la sortie de Médecin Campagne hein, de Thomas Lilti avec François Cluzet et Marianne Denicourt. Donc, c'est l'histoire forcément d'un médecin de campagne, mais qui va perdre jusqu'à la santé pour être au service de ses patients. Et eh bien, on va essayer de découvrir donc des films où le médecin est représenté à l'écran. Premier extrait, c'est très facile.
Vous soignez jamais personne, je sais pas comment vous faites. Moi, c'est pour ça que je fais réa, tu vois. Parce qu'à chaque nouveau malade, t'as un défi. Ça passe ou ça casse. T'es dans l'action, tu vois. Si le mec, il crève, bah, c'est pas de ta faute. Si tu le sauves, t'as assuré.
Attends, ça n'a rien à voir. Justement, en médecine interne, t'as affaire à des vrais patients.
À des vrais gens, tu t'occupes d'eux, vraiment, t'as une relation avec eux. Genre, tu leur parles, et des fois ils sont tristes, des fois ils sont heureux. Toi, t'arrives, c'est des corps, quoi. Tu réanimes et puis c'est tout. C'est bzz, pop, allez, hop, il est réveillé, allez, maintenant je vais en réanimer un autre, quoi.
Mais comment tu te la racontes, mon gars, c'est chaud.
Je viens du mal.
Pas pour le héros, parce que
tu te la racontes, mais... vas-y, me parle pas.
Ah, on a reconnu un acteur, c'était Vincent Lacoste et c'est le film...
Hippocrate, le précédent film du réalisateur. Hein.
Voilà, le précédent film du réalisateur de Médecins de campagne. Alors, deuxième extrait, c'est probablement aussi facile.
Le premier texte que j'ai rédigé, c'était dans Médecine Utopique, pour exhorter mes confrères à ne pas se limiter au sein des femmes et à regarder ce qui se passe dans celui des hommes. Le cancer des testicules, bien sûr, mais aussi l'hypospade, les bourses vides, les bourses qui gonflent, le phimosis, le kyste du cordon, la décoloration de la peau, les mycoses, la baisse de sensibilité du nœud. J'ai relu l'article et je me suis dit, mais qui peut bien avoir envie de regarder tout ça?
Vous ne savez pas comment c'est les femmes.
Ça a été trouvé, évidemment, Manu.
La maladie de Sack.
Non, de Sacks.
De Sacks.
Ouais. Et donc, c'était Albert Dupontel qu'on écoutait. Un autre film, cette fois-ci, américain.
Capitaine Œil de Lynx, Pierce, j'ai reçu une note qui vous concerne. Il paraît que vous avez volé une Jeep au QG.
Ah non, c'est une erreur, je ne l'ai pas volée. Elle est là, dehors. Là.
Ah oui, c'est exact. Mais, capitaine Forrest, vous ne savez pas que quand vous vous présentez à une nouvelle affectation, vous devez d'abord aller voir votre supérieur?
Et le capitaine Pierce. Mm-hmm. Le capitaine Pierce et moi, on a un peu picolé, alors ça nous a donné de l'appétit. Et...
Mais oui, je comprends, c'est... oui. On venait du front. Oui, en ce moment, ici, c'est peut-être un peu calme, mais quand ça se déclenche, nous avons plus de boulot en 24 heures qu'un chirurgien.
Bon, dites-moi, il y a combien d'infirmières ici?
17, oui.
Très bien, et moi, j'en aurai combien?
4. Qu'un civil n'en a...
Parce que la jeune, là, comme
oui, en un mois. Je crois que ça doit pouvoir s'arranger.
J'ai besoin. Et je veux aussi la petite blonde, là.
Capitaine Melkaté.
J'ai pas fini.
Ça a été trouvé, évidemment.
Eh bien, c'est MASH de Robert Altman, avec Sutherland et Elliot Gould.
Effectivement. Et Robert Duval et MASH signifiant Mobile Army Surgical Hospital. Ils sont au Vietnam, hein, c'est ça? Ou en Corée? Je sais plus.
Vietnam, il me semble.
Ouais. J'imagine. Et voilà, et ils sont... Et donc, c'est des militaires médecins, mais qui, bon, enfin, voilà, sont à la cool. Un quatrième extrait.
De qui parlez-vous?
De votre nouvelle protégée.
Mais vous parlez d'une malade. Nous ne sommes pas au cirque.
Mais c'est bien vous qui déclenchez ces crises, non?
Je déclenche ces crises pour étudier les symptômes, rien de plus. Vous pensez sérieusement que je peux créer des maladies? Avez-vous déjà vu des gravures du XVIe siècle représentant des possédés?
Ce n'est pas la question.
Répondez-moi!
Non.
Ces gravures montrent exactement la même chose que ce que nous pouvons voir à l'hôpital. Ces filles qu'on a brûlées pour sorcellerie pendant des siècles n'étaient que des malades. Moi, je ne cherche qu'une chose. Comprendre.
Alors, ça a été trouvé, Marine.
Oui, c'était Augustine, voilà. Avec Vincent Lindon et Soko, donc, oui. Dans le rôle titre.
Tout à fait. Ouais. Hein, c'était donc la cobaye de Charcot qui étudie l'hystérie. Et puis, peu à peu, finalement, eh bien, d'objet d'étude, elle devient objet de désir. Dernier extrait.
Écoute, docteur. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Je sais pas ce que c'est pas simple à définir, mais c'est insidieux. Il y a en toi du schizophrène, quelque part. Par moments, je t'aime énormément, tu sais. Et par moments, tu as un coup plutôt distrayant, mais pas plus. Et j'arrive pas très bien à saisir pourquoi.
C'était la voix, en fait.
Eh oui, hein, Manu, c'était la voix. Oui.
Non, mais je l'ai toujours vu en VO, ce film.
Eh oui.
Comme c'est alors, semblant de David Cronenberg.
Et en VO, ça donne Dead Bridgers. Mmh. Voilà. Et c'est là, c'est un film où il y a deux jumeaux et puis une trifidée qu'on vient d'entendre. Une trifidée, c'est une femme qui a 3 utérus, Marine.
Waouh.
Eh oui.
Waouh.
Et puis, alors, j'aurais pu extraire d'autres... Enfin, les extraits sont nombreux hein, dans ce film. Notamment, il y en a un qui dit « Je pense que les organes mériteraient qu'on leur fasse des concours de beauté. » Et c'est là que s'exprime, en tout cas, bien une des obsessions de Cronenberg.
De Cronenberg, oui.
Ouais, tout à fait.
La beauté intérieure.
Oui. Enfin, intérieure. Des
au
organes,
sens littéral.
En tout cas, ouais. Alors, un petit bonus pour toi, Manu, je pense.
J'ai réussi avec un sérum de mon invention que je leur ai inoculé à redonner la vie à un certain nombre de lapins, cochons d'Inde, des chats et chiens.
J'ai prolongé leur vie au-delà des 12 minutes. J'ai vaincu la mort cérébrale.
Alors
évidemment, oui, Réanimator de Stuart Gordon avec le génial Jeffrey Combs.
Voilà, c'était un petit bonus. Enfin, c'est assez impressionnant comme film. Hein.
Très drôle
aussi. Film de genre et voilà, très drôle. Ainsi s'achève ce blind test spécial médecin à l'écran.
Et maintenant,
Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Enfin, miracle, je vais pouvoir reprendre le cycle sur le cinéma fantastique et vous parler donc des Diaboliques. Michel de la Salle, un homme cruel et tyrannique, dirige à Saint-Cloud un pensionnat pour garçons. Il est secondé par sa femme Christina et sa maîtresse Nicole. Les deux femmes décident de se débarrasser de la Salle, le noient dans la baignoire et jettent son corps dans la piscine. Mais le cadavre disparaît. Désormais, d'étranges phénomènes surviennent dans l'établissement et laissent croire que Michel aurait pu survivre.
C'est effrayant, mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Ça n'a aucun sens. 80 000. Infection des douches. Et ça date de 2 ans. Oh, cette fois, ça sent l'huissier.
Alors voilà la moitié. Pas toujours si mal gagné. Enfin, voyons. Il était bien mort.
Tu dois le savoir mieux que moi.
Pourquoi dis-tu ça?
Parce que... c'est toi qui l'as tué, non?
Moi?
Dame, c'est toi qui as tout combiné. Tout manigancé.
Pardon? Nous avons combiné. Et c'est toi qui as téléphoné.
Tu avais acheté la nappe pour l'envelopper. La drogue pour l'endormir. Moi, je n'aurais jamais su.
Où t'as su le faire boire?
Menteuse. Je ne voulais pas. Tu le sais que je ne voulais pas.
Tu pouvais le laisser cuver son whisky au lieu de le porter à la baignoire.
Qui avait ouvert les robinets? Qui l'a enfoncé sous l'eau?
Et qui est allé chercher le bronze sur la cheminée?
Alors, à l'origine, il existe un roman... vraiment remarquable, signé par les fins limiers Boileau et Narcejac, ceux-là même qui, sans qui le vertigo d'Hitchcock n'aurait jamais vu le jour. Alors Clouzot semblait tout indiqué pour apporter un sang neuf au thriller français en pleine crise d'un cinéma moribond. On est dans les années 50. Spécialiste du film policier dans son acceptation la plus large, Henri-Georges Clouzot est surtout un grand peintre des petites bassesses quotidiennes, de l'hypocrisie des relations humaines. Son œuvre, froide et distanciée en apparence, reste encore aujourd'hui d'une éclatante modernité. Alors ce n'est pas seulement lié à ces scénarios remarquablement écrits qui rendent Le Corbeau ou Quai des Orfèvres intemporel, mais bel et bien ces mises en scène brillantes, jamais avoir en idée visuelle. Alors Clouzot ose partir d'un point de vue, d'un point de départ souvent réaliste pour emmener le spectateur dans des contrées plus étranges, à la limite de l'abstraction. Donc oui, Clouzot n'est pas un auteur à proprement fantastique et les Diaboliques, eh bien un thriller tendu, riche en rebondissements et chausse-trappes diverses. Il reste néanmoins, pour la petite info, l'une des références majeures d'un genre qui explosera moins de 10 ans après, le giallo. Alors dans les Diaboliques, il n'y a certes pas d'arme blanche, l'érotisme est très peu présent, et nous n'épousons jamais le regard du coupable, mais de la victime désignée. Sur ce plan, le film de Clouzot n'a rien d'un giallo, mais l'atmosphère oppressante semble à des années-lumière des frasques oniriques et baroques du cinéma de Bava et Argento. Pourtant, à travers une intrigue réellement diabolique, c'est bien le désenchantement du monde qui est à l'œuvre. Alors tous les personnages, presque tous, semblent potentiellement coupables ou impliqués. Crapules, calculateurs, réactionnaires, lâches, Clouzot ne fait pas grand cas de ses protagonistes engoncés dans leur quotidien minable. L'humanité en prend un sacré coup. Alors on n'en attendait pas moins de la part de l'auteur du Corbeau, l'arrivée, heureusement, de Charles Vanel, inspecteur malin comme un singe, sorte de Columbo avant l'heure, vient mettre un peu de désordre et d'humour dans ce pensionnat rigide et austère où plane le mystère de la disparition du directeur sadique. Alors la virtuosité de Clouzot trouve un point culminant dans sa manière de narrer un récit avec une ironie glaçante, une misanthropie constante et sans recours à la musique. Outre son ambiance anxiogène qui parvient sans mal à nous faire ressentir l'état de terreur dans lequel Christina traverse le film, Les Diaboliques entretient le trouble avec délice en ce qui concerne son statut. Alors machination diabolique visant à faire perdre la tête de la fragile Christina, étude clinique de la folie immanente de cette dernière ne supportant pas les conséquences de son acte, ou alors plongée effrayante dans le surnaturel le plus excessif, où le fantôme du défunt viendrait hanter les coupables. Alors le mystère persiste jusqu'à la fin. Le coup de théâtre final, que je ne vais quand même pas dévoiler, puisqu'il existe encore des gens qui n'ont jamais vu le film. Alors, un peu éventé aujourd'hui, car maintes fois réutilisé dans d'autres films. Pendant 50 ans, on a réutilisé le même coup de théâtre. Alors, et malgré tout, un sommet de terreur pure, proche des films d'horreur, n'ayant pas peur du grand guignol. Et puis, cerise sur le gâteau, la distribution est absolument remarquable, de Paul Meurice à Simone Signoret, en passant par la propre femme de Clouzot, Vera Clouzot. Et il y a eu malheureusement un remake inutile et très très mauvais avec Sharon Stone et Isabelle Adjani.
Oui. Eh oui. Et il n'y en a eu qu'un, ça c'est étonnant par contre. Il n'y en a pas eu plus.
Non, il n'y en a pas eu plus. Mm. Mais bon, beaucoup de films se sont inspirés des Diaboliques, qui a une intrigue presque aujourd'hui qui paraît désuète tellement le film a été piqué, pompé à droite à gauche.
Et il a été tourné dans le Poitou.
Ah, ça, je ne savais pas.
À Bressuire, sachant qu'Henri-Georges Clouzot est né à Niort, préfecture des Deux-Sèvres. Voilà, c'était le petit côté anecdotique des Diaboliques.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous aurons deux interviews. D'abord, Sonny Bouajila pour Good Luck Algérie. Et puis...
Et puis Five avec Pierre Niney, enfin le nouveau film de Pierre Niney. Voilà, donc on vous parlera la semaine prochaine.
Et Batman versus Superman.
Tu nous diras qui a gagné ou quelque chose comme ça.
Quel est le plus fort.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.